La France se caractérise par le fait que le système qui fait que la retraite est payée par les gens qui sont au travail, alors que dans beaucoup d'autres pays, pas dans tous d'ailleurs, la retraite se prélève sur l'épargne des gens qui, pendant leur travail, épargnent et puis touchent leur retraite après. Nous, ce sont les gens qui sont au boulot en ce moment qui payent notre retraite. Donc ce système par répartition, par opposition au système dit par capitalisation, est un système assez spécifique à la France, mais qui n'est pas remis en cause par ce qui vient de se passer. À mon avis, ça sera remis en cause dans les faits, car au fur et à mesure que les Français vont comprendre que leur retraite ne sera pas aussi élevée demain qu'elle l'est aujourd'hui, en France aujourd'hui, le retraité moyen a un niveau de vie supérieur à celui du travailleur moyen. Donc c'est cela qui ne pourra pas durer. Et donc les Français vont se mettre à nouveau à épargner, c'est-à-dire à compléter la retraite par répartition, par des formes de retraite par capitalisation.
Il n'est évidemment pas question de réduire aujourd'hui les pensions des retraités. On a face au vieillissement une sorte de tendance générale de report de l'âge de la retraite, plutôt par exemple que d'allonger le nombre d'années de cotisation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance-là ?
Chaque pays utilise les méthodes qui leur paraissent socialement les plus acceptables, ce que tout le monde craint, et en France comme ailleurs, et peut-être un peu plus en France qu'ailleurs, parce que la retraite est mythique chez nous. C'est la remise en cause de quelque chose qui reste un des rares héritages du passage de la gauche au pouvoir en France. Donc nous avons là un phénomène qui est assez particulier à la France, mais partout on utilise toutes les méthodes, retard de l'âge de la retraite, prolongement des cotisations, remise en cause des années prises en compte pour calculer le montant de la retraite. Et cela va se trouver compliqué dans les années qui viennent par le fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont des phases, pendant leur période d'activité, des phases d'arrêt de travail, des phases de chômage, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc le mode de calcul va devoir tenir compte de ces phases un peu creuses pendant lesquelles les gens n'ont pas cotisé tout simplement parce qu'ils étaient au chômage. Donc nous allons devoir partout, à mon avis, aller vers un système qui ira vers un système de l'âge de la retraite à la demande de chacun, et que vous aurez de plus en plus de cumul entre l'emploi et la retraite, cumul qui autrefois était très difficile mais qui maintenant est autorisé dans la quasi-totalité des pays européens.
Un régime qui correspondrait à un individu, c'est comme des multiplications de petits régimes spéciaux, ça, finalement.
Un petit peu, si l'on veut, oui, en ce sens que chacun fera sa petite sauce à lui, mais cela va demander du temps, cela va demander des tâtonnements. Bon, c'est un grand choc. Enfin, le grand choc social des pays européens depuis le début de ce siècle, c'est la remise en cause des systèmes de retraite pour des raisons démographiques évidentes. Mais c'est un choc social très profond parce que les gens avaient construit leur vie en ayant dans leur tête l'idée qu'ils allaient pouvoir, à partir de 60 ou même 65 ans, avoir une vie comme on vit plus vieux, mais on vit plus vieux en bonne santé. Les gens pensaient avoir une sorte de troisième vie plus agréable que la première où l'on est un enfant sous la coupe de ses parents, et que la deuxième, où l'on est un travailleur, se la coupe de son patron.
On l'a un peu évoqué, il y a donc différentes solutions en fonction des pays. L'Allemagne, 67 ans à partir de 2029. La Grande-Bretagne, 68 ans pour tout le monde en 2046. La France, donc 62 ans. Comment est-ce que, à partir de 2018, comment est-ce qu'on comprend ces écarts de chiffres? Ils sont quand même importants.
Ça s'explique parce que, par ailleurs, vous avez des actions qui portent sur le mode de calcul. Puis vous avez des équilibres démographiques qui sont différents. La France a eu un baby-boom au lendemain de la guerre, comme d'ailleurs tous les pays européens, puis ça s'est effondré, et donc aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup moins de cotisants, puisque les gens qui sont en âge de travailler sont moins nombreux, mais la France, par ailleurs, retrouve un taux de fécondité relativement élevé par rapport aux autres pays européens, donc on peut dire que dans les 20 ou 25 prochaines années, on va voir réapparaître des populations peut-être plus nombreuses en âge de travailler, donc alors que ce n'est pas le cas dans un pays comme l'Allemagne, où il y a un effroyable effondrement de la fécondité. C'est vrai aussi dans l'Europe méditerranéenne, en Espagne, en Italie, au Portugal, et puis en Europe orientale, et naturellement singulièrement en Russie, qui est le pays qui aujourd'hui perd de la population, parce que sa natalité s'est complètement effondrée. Et ça sera le cas d'ailleurs en Chine dans la deuxième partie de ce siècle. Aujourd'hui, on est encore dans l'image d'une Chine qui explose, mais comme on est aujourd'hui dans l'âge de l'enfant unique en Chine, dans la deuxième partie de ce siècle, à la fin de ce siècle, la Chine va vieillir beaucoup plus vite que la France va vieillir.
en revient toujours à la question de la démographie. Est-ce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, cette réforme des retraites, ce n'est pas la conséquence précisément d'un échec des politiques de la famille ?
Oui, c'est à la fois la conséquence de l'élévation du niveau de vie, chacun considérant qu'il doit réduire son nombre d'enfants s'il veut que chacun de ses enfants, par capillarité sociale, voit s'élever son niveau de vie plus vite. Et c'est aussi le fait que beaucoup de pays n'ont pas de politique familiale, ou ont des politiques familiales à rebours. En Chine, la politique familiale, c'est exactement l'inverse de la nôtre, puisque là-bas, vous avez d'autant plus d'allocations que vous avez de moins d'enfants. Et la Chine devra changer de politique familiale dans les quelques dizaines d'années qui sont devant nous. Mais pour l'instant, ça lui rend service d'être comme ça. Remarquez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, vous avez un phénomène où on redécouvre les vertus de la politique familiale. C'est tout à fait récent, hein, ça date de Schröder.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être pour faire face au vieillissement des populations, à travailler sur la valorisation des seniors ? Et puis, vous l'avez dit, peut-être que c'est pas si mal que ça, finalement, de travailler plus tard.
Tout à fait. Ce sera considéré plus tard comme un progrès de l'humanité que d'avoir des gens qui continuent d'avoir une activité sans que pour autant elles leur prennent la totalité de leur temps. Vous aurez à 65, 70 ans, des gens qui travailleront 4 heures par jour ou 2 jours par semaine, etc. Et pour leur équilibre de vie, ça sera sans doute meilleur. Mais il faut que les esprits s'y préparent, il faut aussi que les entreprises y travaillent. Vous avez quelques pays, je pense notamment au Japon, où ils ont été lents à s'y mettre, mais ils s'y mettent, où à partir de 45-50 ans, on prépare les travailleurs à avoir des activités différentes à l'intérieur même de leur propre entreprise lorsqu'ils auront 10 ans de plus. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout en France aujourd'hui, mais qui se fera dans les années qui viennent.